Nous allons parler de neuronutrition, autrement dit la nutrition, l'alimentation au service du cerveau. Je vais vous présenter Lynne Pourteau, qui est docteur en neurosciences, bonjour, et Camille Pouchieux, bonjour, docteur en épidémiologie nutritionnelle. Vous travaillez toutes les deux en recherche et développement chez Active Inside. C'est une entreprise innovante spécialisée dans la conception de développement d'actifs nutritionnels, en d'autres termes des molécules naturelles qu'on trouve dans les aliments, en particulier le raisin et le safran. Vous allez nous parler de l'alimentation d'une façon générale et de plusieurs études scientifiques qui ont montré l'intérêt de certains nutriments sur le cerveau. Alors, est-ce qu'un jour on parlera d'alimentation anti-Alzheimer ? Vaste question.
Merci pour cette présentation. Bonjour à tous. Environ 80 jours, c'est le nombre de jours pendant lequel notre organisme peut survivre sans manger. Si l'on y réfléchit bien, c'est assez court, vous ne trouvez pas ? À l'image du carburant pour la voiture, l'alimentation est donc nécessaire à notre fonctionnement. Mais comme pour la voiture, il ne faut pas se tromper dans le choix du carburant si l'on veut que le moteur tourne. Je vous propose donc cet après-midi de voir ensemble comment la science peut nous aider à faire les bons choix pour alimenter le moteur qu'est notre cerveau. Alors tout d'abord, à quoi sert notre cerveau ? Le cerveau est chargé d'intégrer toutes les informations reçues par les organes sensoriels, donc c'est-à-dire toutes les informations que l'on peut percevoir, sentir. Et donc, une fois qu'il a perçu ces informations, il va organiser une réponse. Donc, le cerveau va contrôler les fonctions motrices, les fonctions cognitives supérieures telles que le raisonnement ou la mémoire, et les fonctions émotionnelles. Alors, pour bien fonctionner, on doit lui fournir une alimentation variée et équilibrée, avec plusieurs types de nutriments. Donc, vous le savez peut-être pas, mais le cerveau est l'organe le plus consommateur en énergie. En effet, alors qu'il représente que 2% du poids corporel, il va avoir besoin de 20% des calories que nous ingérons tous les jours. Alors, les nutriments que nous trouvons dans notre alimentation peuvent être classés en fonction de leur rôle qu'ils vont avoir dans notre organisme. Donc nous avons tout d'abord les aliments énergétiques, comme le sucre, le pain, la pomme de terre, qui sont sources d'énergie immédiate. Ensuite, vous avez les aliments bâtisseurs, que l'on peut retrouver dans la viande, les œufs ou le lait. Et enfin, vous avez les aliments fonctionnels, tels que les fruits et les légumes, qui vont contenir les vitamines et les minéraux essentiels au fonctionnement du cerveau. Alors, tous ces nutriments vont permettre la production et le renouvellement des constituants du cerveau et les réactions métaboliques. Ici, sur votre droite, vous pouvez voir un exemple de dénutrition sévère en protéines. Donc, les protéines font partie des aliments bâtisseurs et ses conséquences sur le cerveau. Donc, ici, bien que les apports énergétiques étaient suffisants, l'apport insuffisant en protéines va conduire à une diminution du volume cérébral, qui, fort heureusement, est corrigé par une réintroduction d'une alimentation normale au bout de 30 jours. Alors, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il se passe au cours du vieillissement ? Est-ce que l'alimentation joue aussi un rôle dans la préservation des fonctions cognitives ?
Donc, ce graphique vous montre l'évolution des performances cognitives en noir et en miroir, en vert, vous trouvez l'évolution du déclin cognitif. Donc, à peu près au milieu de la vie, vers 50 ans, on assiste à une diminution des fonctions cognitives qui vont se traduire par un certain nombre de symptômes, comme les troubles de la mémoire, de la pensée qui ralentit. Et cela peut s'accélérer et engendrer un état pathologique et entraîner une démence. Donc, fort heureusement, on sait maintenant qu'il est possible d'agir sur ces trajectoires en contrôlant un certain nombre de facteurs. Donc, il existe plusieurs facteurs modifiables sur lesquels il est possible d'agir. Donc, je parle par modifiables, c'est souvent des facteurs environnementaux, comme par exemple le tabagisme. On sait que grandir dans un environnement sans tabac permettrait de prévenir la maladie, ou contrôler tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire, comme préserver son poids de forme, traiter son hypertension, traiter son diabète en milieu de vie lorsqu'il est diagnostiqué, permettrait de ralentir la maladie, enfin l'apparition de la maladie. Et enfin, la nutrition, qui est un facteur sur lequel on agit tout au long de la vie, apparaît aussi comme un facteur qui pourrait s'avérer protecteur contre l'apparition de la maladie. Donc voici ici, d'après la bibliothèque des chercheurs, qui s'appelle PubMed, c'est en fait une base de données qui répertorie tous les travaux scientifiques dans le domaine du biomédical. Donc on dénombre à peu près 200 000 publications sur les liens entre nutrition et cerveau. Donc il existe plusieurs types d'études, in vitro sur des modèles cellulaires, sur des modèles animaux, et chez l'homme il y a aussi plusieurs types d'études. Et parmi ces interventions, on a entendu parler tout à l'heure des essais thérapeutiques, il y a environ près de 10 000 publications qui concernent des interventions nutritionnelles sur les liens entre nutrition et cerveau.
Donc maintenant, je vais vous illustrer quelques exemples d'effets d'une supplémentation en nutriments donc isolés cette fois. Donc le premier cas est le cas des lipides. C'est très intéressant parce qu'il faut savoir que le cerveau est composé à 60% de lipides. Donc les lipides sont essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Donc les lipides sont constitués d'acides gras qui ont une structure particulière, on ne va pas la détailler ici, et il en existe plusieurs types. Il y a des acides gras saturés. Donc ces acides gras, on les retrouve notamment dans la viande, la charcuterie. Donc ils sont plutôt dits assimilés à des mauvais gras. Il y a les acides gras saturés et les acides gras polyinsaturés. Donc eux, ils ont la particularité d'avoir une double liaison carbone. Et ce sont les oméga 3 et les oméga 6. Là, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de cela. Ces acides gras, en fait, ils sont dits les derniers essentiels. C'est-à-dire que l'organisme ne sait pas les fabriquer, donc il faut absolument les trouver dans notre alimentation. Et fort du constat que les apports nutritionnels en oméga 3 dans la population normale sont assez insuffisants, l'idée des chercheurs, c'était de supplémenter en acides gras et notamment en oméga 3 la population ou un certain type de population pour essayer de voir s'il y avait un effet sur les fonctions cognitives. Donc c'est le résultat d'une étude clinique que je vais vous présenter maintenant. Donc, dans une étude menée chez des adultes donc en bonne santé, âgés de 50 à 75 ans, on a demandé aux participants, pendant environ 6 mois, de prendre environ 2 grammes d'acide gras polyinsaturé ou des gélules contenant un placebo. Donc, il faut savoir que la dose administrée correspondait aux recommandations journalières. Et les fonctions exécutives ont été évaluées au début et à la fin de la supplémentation. Et on peut constater que les personnes qui ont pris les gélules contenant des oméga 3 ont des meilleures fonctions exécutives que celles qui ont pris des placebos. Donc les oméga 3 semblent importants dans notre alimentation. En plus de notre alimentation quotidienne, il faut avoir un bon apport en oméga 3 pour conserver ses fonctions cognitives. Donc maintenant, on va voir un autre exemple de supplémentation nutritionnelle avec des vitamines. Donc là, c'est une autre étude clinique qui a porté sur des adultes souffrant de troubles cognitifs légers cette fois. Et alors, sur un nombre relativement important, 266 personnes ont été incluses dans cet essai. Et pendant 2 ans, on leur a demandé de soit prendre un comprimé avec plusieurs vitamines du groupe B dedans, soit un placebo. Et on a évalué la mémoire épisodique à différents temps au cours des 2 ans. Alors la mémoire épisodique, c'est la mémoire à laquelle vous faites référence quand vous allez vous souvenir d'un événement dans son contexte. Donc c'est par exemple vos dernières vacances à la plage cet été. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez dû y faire référence, vu qu'il pleut. Et donc les résultats de cette étude ont montré que la supplémentation en vitamines n'avait pas d'effet sur les fonctions de mémoire si on regardait la population dans son entier. Alors, les auteurs ont refait des analyses statistiques, cette fois en divisant la population en deux selon un facteur de risque de la maladie d'Alzheimer. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu que les personnes qui avaient un facteur de risque plus élevé, c'était dans ce groupe-là qu'il y avait un bénéfice de la supplémentation en vitamines. Effectivement, on peut voir que, donc la courbe en bleu à droite, il y a un maintien des fonctions mnésiques chez ces personnes, alors que la courbe en noir, celles qui ont pris le placebo, on voit qu'il y a un déclin au cours des 2 ans. Donc ces résultats sont encourageants, mais il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'autres études qui sont menées et qui n'ont pas montré de résultats significatifs au niveau des supplémentations nutritionnelles, de nutriments isolés. Alors dans l'alimentation de tous les jours, on trouve aussi des phytonutriments. Donc les phytonutriments sont des composés chimiques qui sont issus exclusivement de plantes, dont les polyphénols font partie. Donc les polyphénols, ce sont par exemple des molécules qui vont donner la couleur aux fruits, par exemple le raisin rouge. Et les polyphénols sont classés en sous-divisés en deux classes. Donc les flavonoïdes, donc c'est tout ce qui est en bleu et en bleu là, enfin, j'ai pas de pointeur, et les non-flavonoïdes. Et alors, il y a une étude épidémiologique, donc je rappelle l'étude épidémiologique, c'est les études qui vont regarder le lien, par exemple, entre les habitudes nutritionnelles d'une population et l'évolution des performances cognitives, par exemple. Et donc, l'étude épidémiologique donc, menée à Bordeaux a montré que les consommateurs avec de forts apports en flavonoïdes avaient une meilleure évolution de leur performance cognitive 10 ans après le début de l'étude. Donc les flavonoïdes, les polyphénols, sont importants dans la santé cérébrale.
Donc, maintenant, on va parler d'une alimentation plus globale. Qu'est-ce qu'il existe dans la littérature comme preuve ? Donc, vous avez sans doute tous entendu parler du régime méditerranéen. Donc ce régime, en fait, il a d'abord été très étudié dans le contexte des maladies cardiovasculaires et de la longévité, puisque donc, les études épidémiologiques dans les années 60, en fait, on a observé que ces populations-là vivaient plus longtemps, en meilleure santé. On est allé voir ce qui se passe, ce qu'ils mangeaient. Donc effectivement, ils avaient une alimentation très riche en végétaux. Donc ils mangeaient énormément de fruits et légumes, de céréales plutôt complètes au lieu de raffinées. Comme source principale d'huile végétale ajoutée, ils utilisaient beaucoup d'huile d'olive. Et ils consommaient aussi beaucoup de légumineuses, type pois chiches, lentilles, et d'épices et aromates. En quantité modérée, ils consommaient aussi beaucoup de produits de la mer. Et en termes de viande et apport en protéines animales, ils consommaient essentiellement des volailles, des œufs et des produits laitiers, surtout à base de lait de brebis et de chèvre, puisque c'était des régions où l'élevage était plus propice. Et enfin, finalement, les viandes rouges et charcuteries et les aliments sucrés étaient plutôt réservés aux événements festifs, donc étaient consommés de manière moins importante. Donc en fait, les chercheurs se sont intéressés à ce régime et ont regardé dans les études épidémiologiques si les participants qui suivaient ce régime avaient moins de démence. Et effectivement, dans une méta-analyse, donc c'est une grosse étude qui a combiné plusieurs études individuelles, et donc dans cette étude, qui a regroupé plus de 34 000 participants, ils ont montré que les participants qui avaient une forte adhérence à ce type de régime voyaient leur risque de développer des troubles cognitifs diminuer de 20%, et leur risque de développer une maladie d'Alzheimer diminuer de 40%, donc presque un risque divisé par deux.
Donc suite à ces observations, il était évident pour les chercheurs qu'il fallait essayer de combiner les principaux nutriments neuroprotecteurs vus dans le régime méditerranéen et d'essayer de faire des études de supplémentation. Donc je vais vous montrer l'exemple ici d'une étude d'intervention avec l'usage de multi-ingrédients. Donc là, ce sont des femmes qui ont été étudiées, qui ont dû avoir une supplémentation pendant 6 mois avec 4 gélules par jour et ces gélules contenant un cocktail neuroprotecteurs, on va dire, contenant des oméga-3, du ginkgo biloba, parce que c'est aussi une plante étudiée pour ses propriétés sur la mémoire, et plusieurs types de vitamines et de la phosphatidylsérine. L'évaluation a porté sur l'évaluation de la mémoire à court terme. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'au bout de 6 mois, il y a une légère augmentation de la mémoire à court terme chez les personnes qui ont reçu la supplémentation avec le cocktail neuroprotecteur comparé au placebo. Donc ces résultats sont encore encourageants, mais restent tout de même très limités. Donc vous vous en souvenez, au début de l'exposé, on a dit qu'il y avait plusieurs facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer. Donc là, il y a un nouveau type de recherche qui commence à voir le jour. Et là, les chercheurs essayent d'avoir une approche multidomaine. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer d'intervenir sur plusieurs facteurs à la fois. Donc là, c'est une étude, je vais vous présenter les résultats d'une étude menée en Finlande, de grande envergure, puisque ça a été fait sur 1260 personnes, sur 2 ans, donc c'est quand même assez long. Et là, l'intervention consistait à avoir des recommandations nutritionnelles, des recommandations pour avoir de l'exercice physique, un entraînement cérébral et un contrôle des facteurs de risque métaboliques et vasculaires. Donc là, on entend par là un contrôle du poids, un contrôle de la tension, par exemple. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ? On peut voir qu'il y a une amélioration de 25% des fonctions cognitives globales chez le groupe qui a reçu l'intervention par rapport au contrôle. Il y a une amélioration également des fonctions exécutives et de la vitesse de traitement de l'information. Mais malheureusement, il n'y a pas d'effet sur la mémoire.
Voilà. Donc, compte tenu du manque d'efficacité des stratégies nutritionnelles classiques, il paraît intéressant de continuer à développer de nouvelles stratégies innovantes. Et donc, notre société Active Insight, qui est basée près de Bordeaux, développe des collaborations avec des universitaires de Bordeaux. Et dans le cadre de nos collaborations, nous avons obtenu un programme de recherche pour prévenir le déclin cognitif, un partenariat avec trois partenaires, qui est une société, CNS Solutions, et 2 chercheurs académiques de Bordeaux, le Centre de recherche en santé publique et le laboratoire NutriNeuro. Donc ce projet a un budget total d'environ 16 millions d'euros. Donc pour aller vite, les ambitions de ce projet sont de prévenir le déclin cognitif normal et pathologique par une alimentation à haute densité neuronutritionnelle individualisée en proposant 2 types de solutions. Donc la première solution est la commercialisation de solutions digitales de coaching. En gros, on veut essayer de développer des applications smartphone pour les utilisateurs, pour que les utilisateurs adoptent des bons comportements pour leur santé, notamment en jouant sur les 4 leviers d'action que sont la nutrition, augmenter son activité physique, gérer son stress et son sommeil, avec l'idée que ce package permette un comportement sain sur le long terme. Et le deuxième type d'innovation est la commercialisation d'ingrédients, mais aussi d'aliments à haute densité neuronutritionnelle, c'est-à-dire riches en nutriments bons pour son cerveau. Tout ça pour avoir une alimentation globale bonne pour sa santé cérébrale.